יופי. אופרה. יופי, שלום לכולם, ערב טוב, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et si je ne m'abuse, nous avons terminé la paracha de Teruma. Nous arrivons donc dans la paracha de Tetzavé, c'est-à-dire chapitre Kaf Zain, verset Kaf. Chapitre 27, verset 20.
C'est le début de Tetzavé.
Exactement, c'est le début de la paracha de Tetzavé. Donc, dans la paracha de Teruma, on a parlé du Mishkan idéal, c'est-à-dire du Mishkan sans intermédiaire entre nous et Ribono Shel Olam. C'est l'idéal. Et donc, on a parlé de l'intériorité du Mishkan, on a parlé de la structure du Mishkan, en mettant l'accent sur Moshe Rabbeinu, alors que Aaron, qui semble a priori être le principal intéressé, eh bien, était absent de la paracha. Ici, dans la paracha de Tetzavé, c'est tout l'inverse. On l'avait expliqué, c'est la dualité du Mishkan. Est-ce que le Mishkan, il est l'Echatrila ou Bediavad? C'est-à-dire, est-ce qu'il est a priori dans notre rapport avec Kadosh Baruch Hu pour avoir un endroit de rencontre avec lui? Ou alors, est-ce que c'est un endroit pour, eh bien, expier nos fautes? D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, cette dualité, on la retrouve dans, je ne sais plus si on l'avait dit, dans le piyout très connu de Pessah, le piyout qui dit Daï Dayenu. Alors chacun avec son air, hein, on ne va pas commencer à chanter, mais Daï Dayenu, qu'est-ce qu'il dit Daï Dayenu? Eh bien, il nous dit toute une liste de choses que Dieu nous a fait, et on dit merci, et on dit ça nous aurait suffi pour remercier. Et on termine en disant Ilou ichnisanu l'eret Israël velo banalano et bet amikdash ou et bet abechira Dayenu. Ça, c'est dans la première version. Vous aurez remarqué que dans la Haggadah, une fois qu'on a fini la chanson, on reprend une deuxième fois toutes les choses. On dit « Alachat kama vechama tova kfula umechupelet lamakom alenu »« She » Et là, on refait toute la ligne. Sauf que, toute la liste, mais sauf qu'à la fin, on dit « Velbana lanu et bet amikdash et bet abechira » Et là, on rajoute « Lechaper al kol avonoten » pour expier de toutes nos fautes. Et donc la question dans la première version, ce n'était pas marqué les chaper al voté, non. Ici, c'est marqué. Cette dualité-là, est-ce que le Mikdash est un endroit idéal de relation entre Dieu et nous, ou est-ce que c'est un... c'est les, en, quelque part en bédiaval pour corriger mes fautes. Et donc on avait cette dualité entre Torah de Moshe et Torah de Aaron. Et donc si le Mishkan de Teruma, c'était la version Moshe, et bien maintenant, nous arrivons dans la version Aaron. Mais ça a l'air. Et donc, cette fois, c'est le nom de Moshe qui n'apparaîtra pas dans la paracha, alors qu'on on parle de lui tout le temps, mais on ne le cite pas. Ve'ata. Tiens, justement. Ve'ata. Et non pas Moshe. D'habitude, quand Dieu s'adresse à Moshe, quel est le verset qui ouvre le dialogue de Dieu avec Moshe? Eh oui, il devait acheter Moshe les morts. Là, non. Ve'ata. Ve'ata tetzavé. Attendez, dans le début de la paracha de Teruma, on avait dit, je vous ravive la mémoire, ve'davar Hashem et Moshe les morts, d'abord el bnei Israël, ve'itnouli. C'est-à-dire que ça venait du bon cœur des gens. Ici, on nous dit, ve'ata tetzavé. C'est un ordre. Pourquoi? Parce que dans la mesure où notre paracha, eh bien, admet l'éventualité de la faute, ça veut dire que l'homme n'est plus idéal. À ce moment-là, on ne peut plus seulement compter sur sa bonne foi ou son bon vouloir à donner. Ça rire les tzavotes. C'est-à-dire, c'est comme une société qui serait idéale. Alors, tout le monde comprendrait qu'il faut donner pour les pauvres. Mais une société qui n'est pas idéale, elle comprend qu'il faut imposer de mettre des impôts. D'accord ? ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. Alors, on a l'habitude de dire comme ça dans la parasha de Teruma, qu'est-ce qu'on avait demandé d'amener en premier lieu? ויתנו לי, qu'est-ce qu'ils avaient donné? ודבר שם משה למאור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, qu'est-ce qu'ils disaient? D'abord, Bnei Israël, veikhu li teruma, metkolish asov, veikhu et teruvati, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, כסף, נחושת. צריך לדעת תרומה, on avait demandé d'amener de l'or, de l'argent, du cuivre. Et ici, on vous demande quoi?
De l'huile.
À quoi ça sert l'or, l'argent, le cuivre? Ben, c'est pour construire les ustensiles du Mishkan. À quoi ça va servir l'huile?
Pour utiliser.
C'est-à-dire?
Quel
ustensile?
Du Mishkan.
Mais lequel?
Le candélabre.
Ouais, ben oui. Qu'est-ce qu'on a besoin comme huile? Allumer la menorah. C'est-à-dire? Alors, on a l'habitude de dire comme ça, je sais pas si. Enfin, c'est vrai, mais. Que. On est obligé de donner un ordre pour l'huile et pas pour l'or et l'argent et tout ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec l'or et l'argent, on va construire du solide, des trucs qui restent. Vous savez que quand, alors demandez à votre cher président, pourquoi c'est plus facile de trouver des donateurs? Est-ce que c'est plus facile de trouver des donateurs pour des monuments ou pour le kidouche de l'année? C'est beaucoup plus facile de trouver des donateurs quand quand on peut leur dire, bah, vous inquiétez pas, on mettra une belle plaque avec le nom, que pour donner à Aruchat Tzahoraim une année complète à des élèves. Shemen Zayit Zach, il n'y en aura plus à un moment donné. Personne ne saura que c'est toi qui l'as donné. Veikou elecha Shemen Zayit Zach, Katit la Maor, Katit la Maor, la Lot Ner Tamid. Donc on doit allumer. Il semblerait que dans le Mishkan de Aaron, la première chose à faire, c'est la Alot Ner Tamid. Pour rappeler, on avait dit que dans la Menorah, il y a cette dimension de Kedusha, enfin de présence divine au sein du peuple juif. Vous vous rappelez, on avait parlé de ce miracle permanent dans la Menorah. Et donc, puisqu'on parle d'un Mishkan ici qui est, pour des gens qui ont fauté, on pourrait penser que le fait que tu as fauté enlève la présence divine. Eh bien non. Yesh nerot le'alot ner tamid. C'est-à-dire que la présence divine, elle reste même si tu as fauté. D'accord? Bo el moed michutz la parochet asher ala edut yaaroch oto aaron ubanav me'erev ad boker lifnei Hashem chukat olam ledorotam me'et bnei Yisrael. Cette fois, qui est astreint à allumer la menorah? Chapitre 27. Versets 20, 22, 23. Début de la parasha de Tetzaveh. Donc, qui est astreint à la avoda de la menorah? À Kohen Agadol. À Aaron Obadah. C'est-à-dire? Et là aussi, c'est quelque chose d'important. Là, pour la première fois, on voit le mot Aaron, mais ça veut dire aussi que celui qui va allumer la menorah, c'est le Kohen Gadol. Il n'est pas obligé. Il peut laisser sa place, son tour à un autre Kohen, mais a priori, c'est lui qui a la primauté. Pardon? Oui, c'est fils après lui. C'est fils après lui. Il est. Shara la edut ayra merav ad boker lifnei Hashem chukat olam ledorotam me'et bnei Yisrael. Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha ve'et banav ito mitoch bnei Yisrael. Il faut maintenant séparer Aaron et ses enfants. Mitor bene Israël, pourquoi faire? Lecha anno li. Pour qu'ils deviennent Kohen. Et voilà, pour la première fois, on va avoir des Kohanim. Est-ce qu'on avait déjà vu des Kohanim dans la Torah? On a déjà vu des Kohanim, mais pas chez nous. On a vu Yitro qui était Kohen Midian. Et avant lui, on avait vu Malkitzedek. Vous Cohen les lions dans le livre de Bereshit. Les
lions,
c'est. Les lions, c'est le dieu d'en haut. Ok. Donc là, pour la première fois, on va introniser les Kohanim dans le peuple juif. Il s'agit de qui? Aaron, Nadav ve'Aviou, Elazar ve'Itamar, bené Aaron. C'est pas mal. Qui n'a pas était sélectionné dans le verset, eh bien celui qui est déjà en vie à ce moment-là, mais qui n'est pas le fils de Aaron, mais qui n'est que le petit-fils de Aaron. Il s'appelle Pinchas. Pinchas est déjà en vie à ce moment-là, mais il n'est pas Cohen. Pourquoi il n'est pas Cohen? Parce que ici la Torah nous a dit Aaron ou Banab. et pas Bene Bana. Une fois que Elazar et Itamar sont devenus Cohen, leurs enfants le deviendront après. Mais une fois que, enfin, pour l'intronisation, on a dit Aaron ou Banav, on n'a pas dit Aaron et toute sa descendance. Donc Pinchas, qui est déjà en vie à ce moment-là, est laissé sur le carreau. Il n'est pas Cohen.
C'est le petit-fils
de Aaron, le fils de Elazar. Il deviendra Cohen avec Maasé Pinchas à la fin du livre de Bamidbar. D'accord ? Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on a séparé les Cohen.
Ils sont trois pour l'instant.
Pour l'instant, ils sont trois. Enfin, non. Pour l'instant, ils sont cinq. Sauf que toi, tu sais que Nadav et Avihu, ils vont mourir. Mais pour l'instant, ils ne sont pas morts.
Oui.
Donc pour l'instant, il y a Aaron, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Ok ? Pour l'instant, on a cinq Cohen. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de séparer les Kohanim du reste du peuple ? Eh bien, on a dit, parce que le peuple n'a montré son incapacité à être relié à Kadosh Baruch Hu sans intermédiaire, on leur donne des intermédiaires. Ces intermédiaires vont donc venir de la famille de Aaron. Qu'est-ce qu'il a de particulier à Aaron ? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a choisi pour être le Kohen ? Là-bas. Pourquoi lui plus qu'un autre ? D'ailleurs, pourquoi lui plus que Moshe ? Pourquoi c'est pas Moshe qui est le Cohen au Beth Amikdash ? Ou alors, je sais pas, moi, le chef de la tribu de Yehuda ? Maaron particulièrement ?
C'est le roi de la tribu de Cohen.
Il n'y a pas encore de tribu de Cohen.
Non, de la tribu de Lévi.
C'est le rôle d'enseigner la Torah, c'est pas forcément le rôle d'être Cohen au Beth Amikdash. D'autant plus que ça, à la base, ça ne devait pas être Aaron et les Kohanim,
oui,
ça devait être les Bechorot. Donc pourquoi est-ce que c'est... Eh bien, tout simplement parce que Aaron ou Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, Omekaravan, la Torah. C'est-à-dire que Aaron, son truc, Shalom, c'est-à-dire, pas de problème, moi aussi je t'en retard. Donc tout va bien. Aaron, son truc, c'est le Shalom. Et c'est très important de le savoir parce que, nous dira le Talmud, chez Akadosh Baruch Hu, lo matzak li marzik bracha yoter me ha-shalom. Sheneemar, Hashem yevarech et amo ba-shalom. En d'autres termes, le shalom, c'est l'outil qui permet le mieux de dévoiler Dieu. Qui, parmi le peuple juif, est le mieux placé pour faire le shalom ? Aaron. Et donc, la particularité de Aaron et de ses enfants doit être la capacité de faire le shalom entre les cieux et la terre, entre Hachem et le peuple d'Israël et le monde d'Israël. Donc ça veut dire que dans la mesure où le Beth Amikdash est l'endroit de la relation entre Dieu et l'homme, eh bien il faut que ce soit des hommes de shalom, de shlemout, qui permettent de faire le lien.
Il me semble que Moshe Rabbeinu est un homme de paix et de shalom.
Moshe Rabbeinu n'est pas du tout un homme de paix et de shalom. Moshe Rabbeinu est un homme de total, de émet, jusqu'au bout. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voit les gens faire le veau d'or, il ne demande pas, viens, on va se calmer, tout ira bien. Il tue 3000 personnes qui ont fait le veau d'or. Lorsque Moshe Rabbeinu il doit faire la guerre, il fait la guerre.
Oui, mais il a fait la guerre entre Dieu et le peuple juif pour les libérer.
Alors, il a appris de Aaron, tu as raison. C'est pour ça que, tu as raison de le rappeler, quand on est sorti d'Égypte, il fallait à Moshe comme aide à Aaron. Okay ? Il ne peut pas jouer tout seul, Moshe. Donc, on a séparé les Kohen. Alors, le problème, c'est que si on parle de nous, du peuple juif tel qu'il est pour de vrai et pas seulement tel qu'il est dans l'idéal, on a dit on fait des erreurs. On fait des erreurs. L'âme, est-ce que ça vous arrive de faire des erreurs dans la vie ? Hein, je ne veux pas de réponse, hein, je ne me permettrai pas de vous poser ce genre de questions pour de vrai, mais ça peut nous arriver. Qu'est-ce qui est, on va dire, j'allais dire l'outil, mais ce n'est pas vraiment un outil. Qu'est-ce qui nous fait tomber de manière générale ? De manière générale, on a un outil qui nous permet de ne pas tomber, c'est ce qu'on appelle...
La Emouna.
Non, pas la Emouna, à Sechel. Notre émouna, elle peut nous faire tomber aussi. par exemple, j'ai une émouna incalculable que Dieu va me sauver, et donc je décide, de, pour le prouver, de sauter du toit de Azrieli.
Une troisième étape.
Bah, plus encore. Ma émouna, elle m'a fait faire une erreur, là. Ok ? Donc, le sechel. Je tombe pas. J'ai appris ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite. Mais il y a des forces qui ne sont pas le sechel, qui vont soit me faire tomber, soit pas. Mais très souvent, quand je tombe, c'est à cause de ces forces-là. On appelle ça koach ha-medame, ha-dimyon, c'est-à-dire l'imaginaire. Exemple. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. N'y voyez ici aucune propagande, quelle qu'elle soit. Mais il y a aujourd'hui, dans notre monde, des panneaux publicitaires. Pour plein de choses. Pour des vêtements qui, a priori, ne devraient pas être montrés. Pour des aliments. Pour plein de choses. Ces panneaux publicitaires montrent des images absolument incroyables. Alors, s'il s'agit d'êtres humains, ce sont des êtres humains qui ont été retouchés par Photoshop. Et si ce sont des aliments, ce sont des trichimes incroyables. J'ai vu dans l'un de mes derniers passages dans un endroit dans ma maison où je n'ai pas le droit d'étudier la Torah d'après la Halakha, donc il faut bien trouver une occupation dans cet endroit-là, eh bien, j'ai vu une vidéo de comment les publicitaires sont experts en mensonges publicitaires. Et donc, par exemple, et là, c'est une vidéo sur les publicités pour la nourriture. C'est fantastique que les publicitaires ne mettent jamais de lait dans les pubs pour céréales. C'est un bol rempli de colle blanche.
Ah, d'accord.
Pourquoi la colle blanche ? Parce que la colle blanche est beaucoup plus blanc que le lait. Et en plus, ça permet de coller des morceaux de céréales en haut qui vont être bien en évidence. Et toi, tu as l'impression qu'il flotte, mais en vrai, dans ton bol, ça n'a jamais la tête de la pub. C'est fantastique. Ça a l'air. Donc, c'est ce qu'on appelle le dimion. Achava dimion, l'imaginaire. Ben, quand tu le tournes vers ce genre de choses, atanophèle. Quand ton imaginaire, ce sont des femmes pas tellement habillées, parce que c'est ce que tu vois quand tu prends la route de Ayalon à Tel Aviv. C'est ça qui te reste gravé dans la tête. Donc, pour pouvoir corriger cela, on va te donner un dimion de Kodesh. Dimion de Kodesh.
Dimion,
c'est l'imaginaire. Ok ? Par exemple, qu'est-ce qui vaut mieux ? Vous savez, nous, enfin moi, quand j'étais jeune, on avait des albums d'autocollants comme ça, on allait au bureau de tabac et on achetait Panini et autres, on achetait des trucs comme ça, et combien on a dépensé d'argent avec 7 fois le même en double. Chez Ella, c'est quoi qui est mieux d'avoir comme album? Est-ce que c'est mieux d'avoir un album des différentes équipes de la L1, de la première division de football française, et donc ton dimion il est mis sur des joueurs de foot? Ou alors sur des dessins animés, ou alors, bon là mon fils ça va, je vais acheter un album sur tous les paysages et les animaux de l'Israël. Donc ça, ça passe. Mais je sais qu'il y a des albums aux États-Unis de Rabbanim Chassidim. Ah, tu as la carte du Rabbi de Gour, c'est incroyable. Moi je ne l'ai pas, viens on échange. Alors c'est marrant. Mais en fait, quand ton bébé naît, qu'est-ce que tu vas décider de mettre comme images qui vont être les premières images qu'il va voir dans son berceau? Est-ce que tu vas mettre des images de papillons, d'escargots, de toutes les couleurs, machin? Il y en a qui mettent des images de rabbanim. Pour que les premières images qu'ils aient, ce sont des images de rabbanim. Bon, il y a des pour, il y a des contre. Chez Chabad, par exemple, on ne met pas d'images d'animaux qui ne sont pas cachères. Par exemple. qu'est-ce que moi je vais amener comme Korach Medamé, comme imaginaire, pour contrer l'imaginaire mauvais? Eh bien, la Torah nous dit, Ine, Vasita Bigdei Kodesh Leharon Achicha Lechavod Ultifaret. On va parler maintenant des Bgadim des Kohanim. À quoi servent les Bgadim des Kohanim? Ils n'ont qu'un seul intérêt. Quel est l'intérêt des Bgadim des Kohanim? C'est-à-dire faire en sorte que toi, quand tu vois, tu dises waouh. Zéou. Zéaïn. Parce que tu es tellement influencé par les images d'autres choses, on veut te donner ici une image de Kedusha. D'accord? C'est Zénachon. Des fois, tu te dis, comment tu sais qu'un rave est grand? Ben, au lieu de t'as pas étudié ses livres ou tu connais pas, mais tu vois comment il est habillé. Alors, tu dis, forcément, il est grand. Et je me disais, machin. C'est pas toujours vrai du tout, hein. Des fois, tu as des rabbinim, tu as des débats entre des rabbins. Tu en as un qui s'habille en costume, trois pièces, cravate et tout, bien, bien lustré. Et l'autre, il vient avec une chemise à carreaux, un peu débraillée, et en pantalon qui n'est pas un pantalon de costume, et en sandales, il ne manquerait plus qu'il soit en sandales.
Non, sandales-chaussettes.
Sandales-chaussettes, ce serait pire. Bah, le public, il a déjà choisi qui était le plus grand Talmid Chacham. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ça a l'air. Donc,
est-ce qu'il y a un peu dommage, c'est que la Torah ne précise pas si la tunique des Kohanim du premier temple était la même que les Kohanim qui vivaient au deuxième temple.
On n'a aucune raison de penser que ce n'était pas la même.
Non, il y a pas une petite différence sur la couleur, la teinture.
Non, c'est blanc. Pour les Kohanim, c'est assez facile. Donc, non, il n'y a pas de raison de penser que c'était différent. A priori, je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Donc, alors, venez, on rentre maintenant dans les Bgadim. Parce que c'est de ça qu'on parle. Vasita Bigde Kodesh. Beged, Zetov, Ozera. Beged. Donc tu dis, c'est parvé. Sauf que des fois, le Beged, il ne serait pas un peu Boged? Ah, moi je fais des jeux de mots, mais si tu ne comprends pas le jeu de mots, ça ne marchera pas. Ça veut dire traître, exactement. Eh oui, des fois, on va mettre des habits qui nous trahissent, ils nous reflètent exactement qui on est ou pas? Le béguet, des fois, il peut être traître. On dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Mais imaginons quelqu'un qui s'habillerait, je sais pas moi, en taille 44, alors qu'en fait, il fait son corps, c'est un 36. Bah, c'est béguet, c'est l'obéhémé tata. Ou alors, tu t'habilles comme un président et en fait, tu es le dernier des losers. C'est Boged. Ou l'inverse. Tu t'habilles n'importe comment, mais en fait, tu es le PDG d'une multinationale qui fait des milliards. C'est Boged. Donc, ce que l'homme décide de mettre sur lui pour se vêtir, eh bien, ce n'est pas anodin. Il y a plusieurs termes qui déterminent les habits. Il y a le beged, qui donc peut être négatif. Il y a ce qu'on appelle le levouche, l'obosh, qui enlève la boucha. Et il y a les madim. Madim, on a traduit en français par uniforme, mais c'est pas ça. Madim, c'est ce qui est moded, c'est ce qui me mesure vraiment. C'est-à-dire, et donc c'est pour ça que la Chassidut va appeler les midot levouché à nefesh, les habits de l'âme. C'est-à-dire, donc les bayadim, c'est pas stam, d'autant plus que c'est ce qui détermine l'être humain comme étant être humain. Qu'est-ce qui détermine l'humain comme étant un humain? C'est qu'il s'habille. Toutes les cultures humaines ont le besoin de rajouter quelque chose à la nature. Alors, pas toujours des habits comme nous. Des fois, dans certaines tribus, où c'est une peinture sur le visage, ou alors un collier, ou alors... Mais il y a toujours quelque chose. Même dans les tribus que tu vois dans des reportages, machin, qui sont nus, ils sont jamais vraiment nus. il y a toujours ce besoin de rajouter quelque chose.
Une parure,
quelque chose. Parce que l'homme, en tant qu'homme, il ressent qu'il a besoin de compléter quelque chose par rapport à la nature. D'accord ?
Ça nous vient
de Adam. Ça nous vient d'Adam, évidemment. Ok ? Donc, la dimension de Beged est fondamentale. Elle n'est pas parvée. Donc, c'est quoi les Bigde Kodesh, l'Aaron, Achicha, le Chavod ou le Tifaret ? Veata ! Tedaber el kol chachem elev asher miletiv ruach chokhma. Donc, il faut de la sagesse. Mais une sagesse qui vient d'où ? Chacham, comment c'est là ? Ce mot-là est marqué Chachme Lev. C'est une sagesse, mais elle vient du cœur. Ok ? Asher miletiv ruach chokhma ve asu bigde Aaron le kadesho le chano li. Alors, c'est quoi les habits des Kohanim? Vele abegadim asher yasu choshen ve'efod u'me'il u'ketonet tashbetz mitznefet ve'avnet. Donc on a combien d'habits? Bah, on compte. C'est pas compliqué. Choshen ve'efod u'me'il u'ketonet tashbetz mitznefet ve'avnet. Donc on a combien ? 6. Seulement on sait très bien qu'il en manque 2 ici. Eh oui. Lequel il manque ? Le Michnesaïn. Et il manque également le Tzitz. En tout, le Kohen Gadol, il a 8 habits. Pourquoi 8 ? Comme on vient de dire, le corps de l'homme, c'est 7. Le corps de l'homme, c'est la nature. Les habits, c'est cette dimension de vouloir toujours rajouter quelque chose à la nature. Donc l'habit, il est par définition 8. D'accord ? C'est pas que tu es obligé de porter à chaque fois 8 habits. Mais l'habit, il est par définition 8. Donc chez le Kohen Gadol, il y a 8 habits. Ok ? Alors, allons-y.
Pourquoi il en manque 2 ?
Ils vont apparaître juste après. והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת עלת השנים ואת השש ועשו את האפוד זהב, תכלת וארגמן תולעת שני, שש מוזר מעשה חושב דבר רפר, אפוד זה כבר לא אפוד? זה הוא דיר, זה כבר רפר, הוא On ne va pas aller dans l'ordre. Ce sera plus facile à comprendre si on ne va pas dans l'ordre. Donc en fait, ce qu'on va faire... Bon, tant pis, l'homme jamais. On va faire dans l'ordre. Après, à la fin, on fera une conclusion pour essayer de faire du céder. Là, on va prendre les choses telles qu'elles arrivent. « Ve'en ikru donc et azav, et atechelet, et argaman, et olat ashani. » Donc on va prendre l'or. Le bleu azur du trellet, l'argaman c'est du rouge indigo, vetolat achani c'est encore plus rouge, vet achesh c'est comme de la soie, vasu et aifod zaav techelet vargaman zola achani, vesesh mozdar maase choshev, ushtek et aifod choberot yelo al shenek et sotav, vechubar, vechesh afudato asher alav, que maase ou mimenu yé zaav techelet vargaman zola achani, donc le ephod c'est on parle des habits du Kohen Gadol et donc le ephod c'est ce qui va être sur son me'il et sur le ephod on mettra après le choshen mais en fait le ephod c'est une espèce de veste qui est tenue par deux pierres qui portent sur ses épaules sur lesquels, eh bien, on va te marquer, on va te dire, la carta est jetée à venir à Shoam, au pitarta aleem, chez Mod Bene Israël. Donc, sur l'une des pierres, il y a six noms, et les autres six noms, c'est les six noms et six noms qu'on va retrouver dans les brachot ou klalot, Be'ar Gerizim, Be'ar Eval. Shisha Mishmotam, à la Even Aechad, Be'shisha, Be'et Shemot Ashisha Notarim, à la Even Ashenit, Ke Toldotam.
Quand on parle des noms, c'est les noms des tribus.
Oui, des tribus. מאסך הרש אבן פיתוחי חותם ותפחד תפתח סליחה את שני האבנים על שמות בני ישראל מוסבות משבצות זהב תעשה אותם שמת את שתי האבנים על כתפות היפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. Donc à quoi sert le éphod? Il sert à deux choses. Il sert à une chose positive et une chose négative. Il sert contre la Avodah Zarah. Pourquoi il sert contre la Avodah Zarah? Bien parce que le éphod était le cli utilisé par les Kohanim de Avodah Zarah. Et donc eux portaient le éphod, les Kohanim Avodah Zarah portaient le éphod au niveau de leur partie intime. Nous le portons sur le cœur. Donc ça, c'est la première chose, la première dimension du éphod, c'est contre l'arbre d'Azara. Et deuxièmement, les Ikaron chez le Béné Israël. C'est de là on parle véritablement de l'expression porter le poids d'une responsabilité sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il porte le nom des Béné Israël sur ses épaules. D'accord? Donc ça, c'est le éphod. ועשית משבצות זהב ושתי שרשראות זהב, טהור, מגבלות, תעשה אותם, מעשה אובות, ונתת את שרשראות האובות על משבצות, ועשית, donc on a des chaînes en or qui vont permettre de tenir le חושן. ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפות, תעשינו זהב, תחילת והגמן, ותולד שני וששמו זהב, תעשה אותו. רבוע. Il est kaful zeret orgo ve zeret orbo. Donc le choshen, ce pectoral carré, il fait combien sur combien? 1 sur 1. 1 1 quoi? 1 zeret, tu as raison. C'est combien un zeret? Et c'est ça. Zeret ze chatsi ama. Ama. Non. Ama, c'est plus ou moins Khatsi Meter. C'est 48 cm. Donc Zeret, c'est 24 cm. Donc c'est un carré, un pectoral qui fait 24 cm sur 24 cm. Ok? Rabouaye kaful Zeret, orkov Zeret, rochbo, ou mileta bo, miluat, even, arba, turim, aven, tour. Odem pitda ou bareket atour aechal, vatour acheni nofer sapir via l'homme, vatour achenichit leshem chevo velachlama, vatour arrivit tarchish veshoam veyashve, mouch meshubatzin zaav yu bemilu otam. Donc vous avez compris, dans ce pictoral, nous avons arbatourim, nous avons quatre colonnes de pierres précieuses qui représentent les Béné Israël. Alors, le problème, c'est que je vais avoir beaucoup de mal, comme ça, de tête, à vous dire exactement de quelle pierre il s'agit. On va essayer, je ne me rappelle plus chaque nom en français. Tour, Arba Tourim Aven, Tour, la première, c'est Odem. Mazé Odem. Azéou. Je faisais Machloket, parce que le rubis, il n'était pas utilisé à cette époque-là. Donc, il semblerait que ce soit plus le. Une pierre qui s'appelle le grenat, ou grenat. C'est la même couleur. Ouais, c'est la même couleur, mais c'était un peu plus rouge comme ça, mais c'est une pierre qui a été utilisée. Le rubis, il sera utilisé plus tard. Pitda, je ne peux pas te dire, ou bareket, c'est. Topaz, tu dis quoi? Topaz. Voilà, très bien, on va se fier à ça.
Le saphir et l'émeraude.
Toi, il y a marqué saphir?
Oui, le saphir et l'émeraude.
Bon, je sais pas. Non, saphir, à mon avis, parce que c'est marqué après, donc à mon avis, c'est pas saphir. Et donc topaz, toi tu dis pitta, topaz ou bareket, on va lui faire confiance pour ce coup-là, je vais vérifier après le nom en français. Vatour Hacheni, nofer, sapir, veyalom. Alors qu'est-ce qu'il dit chez toi, nofer?
Ils mettent malakit, saphir et brillant.
Ouais, malakit,
ouais,
c'est. Hein? Ouais, bon, d'accord, sapir, yalom, brillant. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas du diamant? Aujourd'hui on dit yalom, c'est du diamant.
Un brillant, c'est une taille.
Oui, mais est-ce que c'est un diamant? Il y a peu de chances que ce soit un diamant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les outils à l'époque pour tailler du diamant. Avec quoi on peut tailler du diamant? Soit avec du laser, soit avec un autre diamant. C'est compliqué de faire avec un diamant qui n'est pas taillé un autre diamant.
Il faut un diamant taillé pour tailler du diamant?
Bah, il faut que tu.
Il faut une pointe de diamant.
Ouais, il faut une pointe de diamant, que ce soit bien fait quand même. Ça paraît compliqué. Mais disons, allez, c'est quoi? Chez les diamants. Va tour ashlishit leshem shvo veachlama. Là, ils te disent quoi?
Troisième rangée, opale, agate et améthyste.
Et ben voilà.
Là, c'est encore mieux. Il y a leshem, shvo et alma.
Ah ben c'est bien. Toi, ils ne sont pas foulés, hein, chez toi. Il y a fait. Va tour avevit, tarshish ve shoam ve yashve. Ah, des pierres de jaspe, ça existe. Top.
Mais Shoam, c'est quoi?
Eh ben, c'est Shoam.
Shoam, c'est Shoam.
Voilà.
Shoam.
Bonne question.
Une pierre précieuse en hébreu moderne, ça s'appelle marguerite.
Ouais. Mais pas qu'en hébreu moderne, d'ailleurs. Même en hébreu plus ancien. Mais qu'est-ce que j'irai vérifier exactement de quel... C'est quoi exactement Shoam? En tout cas, c'est une pierre précieuse. Agave, toutes ces pierres ont été retrouvés. On sait, aujourd'hui, on les connaît. Et donc, au Mahon HaMikdash, eh bien, vous avez le pectoral avec les pierres telles qu'elles sont marquées ici. Ça a l'air ? V'ator avit arshi shoham v'ashve, meshubatzim, za'av, yu, bemilouam. Donc, à quoi sert le Rocher ? Il est contre les problématiques liées au Mishpat. Arez Rocher HaMishpat. C'est là-bas qu'on va avoir Urim Vetumim. C'est-à-dire que c'est pour avoir une connexion Wi-Fi 5G avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quand on avait une question pour les Inyané Malchut, Inyané Am Israël, on demandait et les lettres des tribus qui étaient gravées sur les pierres apparaissaient pour donner la réponse. Va'avanim tiena al shemot bene Israël, shtem esre al shemotam, pituche chotam, ish al shemo, tiena lishne asar shavet. Peut-être que tu peux tailler un diamant avec une pointe de diamant, mais graver le nom d'une tribu dedans, là c'est autre chose. Ça, ou alors ils avaient déjà inventé le laser et on le sait.
Ça n'est pas brillant, c'est une pierre brillante.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que je te dis, ça, à mon avis, c'est pas du diamant.
Là, ils ne traduisent pas par
diamant,
c'est
pas brillant. D'accord. Va la choshen, chercherot, gavelut, maaseavot, zaav, taor. ועשית על החושן שתי טבעות זהב, ונתת את שתי הטבעות על שתי קצות החושן, ונתת את שתי הערבותות, הזהב על שתי טבעות, על קצות החושן. ואת שתי קצות ושתי הערבותות, תיתן על שתי המשבצות, ונתת על כתפות היפוד אל מול פניו. ועשית שתי טבעות זהב, ושמת אותם על שתי קצות החושן, על שפתו אשר על עבר היפוד ביתה. ועשית שתי טבעות זהב ונתת אותם על שתי כתפות היפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו ממעל לחשב האפוד. C'est-à-dire que toutes ces chaînes-là doivent faire en sorte que le choshen ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il est accroché au Bnei Israël en haut, il est accroché en bas, hein, à la ceinture, exactement. Il est accroché aussi derrière. C'est-à-dire que le éphod, c'est la chose la plus... Yatsiv de tous les habits, le Rochen, c'est l'élément le plus fixe de tous les habits du Kohen. Pourquoi? Parce que le Mishpat, c'est quelque chose qui doit être juste, fixe. Ok? Vayerkesu et ha Rochen mi tabbeotav al tabbeot haefod mi petil techelet veliot al cheshev al haefod velo yizach ha Rochen me'al haefod. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, ונדשי אקספיקי, והיו הלב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. וואו, נקומחי, כלידי דיו חושן זה תורת המשפט. ועשית מעיל Vasita Meil, donc là on parle du troisième habit du Kohen, Mazé, le manteau. Alors c'est pas un manteau comme nous, c'est la longue tunique du Kohen Gadol. On parle des habits du Kohen Gadol là, pour l'instant. D'accord? Donc Vasita Meil, hop, j'ai perdu ma page. Vasita est Meil. A Ephod, Kelil Techet. Donc le Meïl, il est de quelle couleur? Il est bleu. On va voir qu'il y a aussi un peu de Argaman, donc il est un peu rouge aussi. Mais regardez qu'est-ce qui se passe avec notre Meir. Dites-moi s'il y a une façon de présenter le Meir qui utilise un organe particulier. Regarde. Vaasita et Meir haEfod kelil techelet. Vaaya pi rosho betocho safa yé le pi saviv. Maase oreg kepi tachra yé lo lo yikarea. Est-ce qu'on peut déterminer un élément du corps qui serait utilisé pour déterminer le méhil? Eh oui, c'est la bouche. Hein, je reprends le verset. Il y a pire au chaud. La bouche de sa tête. Betocho, sa faille, la lèvre. Et encore une fois, pire. Et encore une fois, pire. C'est-à-dire que le méhil, il est là que neged la shonara.
Une petite question. Oui. Est-ce que tu peux nous affirmer que le méhil, il est aussi bleu que le tirelet? Le tirelet, c'est un bleu azur.
Oui.
Et ça provenait d'un verre que Dieu a créé pour la seconde?
Non.
Ah, si, si.
Ah, non, non, non.
Ah, j'ai entendu dire ça. De...
Mais la semaine dernière, nous avons expliqué que le tirelet, ou il y a deux semaines, je ne me rappelle plus, que le tirelet, ce n'est pas un verre, c'est argamon kekotsim, c'est un espèce de coquillage que lorsqu'on sort la bestiole et qu'on l'écrabouille, ça fait une espèce de pâte violette qui, lorsqu'elle sèche au soleil, devient bleu azur. Tu me demandes, est-ce que le meïl, il est aussi de ce même bleu? Ben, il y a marqué ici, ben, si t'as et meïl et fod, kelil techelet. Ah oui, hein? Maintenant, donc le meïl, on parle tout le temps de sa bouche. Il est keneged leshonara. C'est-à-dire, le efod, il est keneged avodaza. Le choshen, keneged amishpat. Ve Amil Keneged Avoda Zara. Keneged Tira, Lashon Ara, bien entendu. Lashon Ara. Ve Asita et Shulav Rimone Techelet Ve Argaman. Rimone Techelet Ve Argaman, Ve Tola et Shani, Al Shulav Saviv Ve Pamone Zahav, Betoham Saviv. Pamon Zahav Ve Rimon, Pamon Zahav Ve Rimon, Al Shule Amil Saviv. Donc le bas du manteau est recouvert de clochettes. Une rimon, un paramon. Une grenade, une clochette. Une grenade, une clochette. Tout ça en or. Ok ? Il y en a 72 au final. Hein ?
Je ne l'ai pas compris.
Ah ben il faut. On a retrouvé une de ces clochettes-là dans les fouilles archéologiques.
Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas très longtemps. Dans la rue qui mène entre Ir David et le Beth Amikdash, on a retrouvé une petite clochette en forme de grenade en or qui a les dimensions telles qu'elle est mentionnée dans la Mishnah. C'est assez incroyable ce genre de découverte. Vayal Aaron le sharet venishma kolo bevo el kodesh lifnei Hashem betzeto velo yamut. Donc il sert à quoi? À faire entendre sa voix. Ah oui, les clochettes, ça fait gling gling. C'est pour faire entendre quand le Cohen, il rentre où? Ben, c'est parce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué Bevo, El, Pasuk Lamedhe, Vaya al Aaron le Sharet ben Ishma Kolo, Bevo, El a Kodesh. Pas Kodesh à Kodashim. El a Kodesh. Parce que quand il rentre dans Kodesh à Kodashim, il n'a pas ses habits dorés.
Il est tout blanc.
Il est tout blanc. Eh oui, donc le goût des clochettes à Yom Kippour, il faudra repasser. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas vrai. Et Lama, quand il rentre dans le Kodesh, on entend toutes ces PGS. Ok? Ok. Un vélo yam. Ve'asita tzitz za'av ta'o. Upitarta ala pituche chotam kodesh l'Hashem. Tu vas lui faire un tzitz. Vas-y, tzitz. Vas-y, tzitz.
C'est un arbre qui
poussait, qui donnait une certaine couleur. Vas-y, tzitz. Zé akouron. Le diadème du Kohen Gadol, sur lequel il y avait marqué Kodesh Lachem. Et où est-ce qu'il le porte?
Eh bien, il le portait sur le front.
Ben, ma com, j'ai la tefilin.
Et il me semblait.
Non, sur le front.
Il me semblait en.
Là. D'accord? והיה, ועשית ציד זהב טהור, פיתרת עליו פיתור רכותם, קודש לשם, ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת יהיה, והיה על מצח אהרון, על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם. בסדר?
Qui s'allume
à chaque fois que le gâteau il fait des actions. On a parlé des Ourim Vetoumim pendant que tu réglais la lumière. Les Ourim Vetoumim, c'est dans le Rochen, dans les pierres précieuses. Quand il posait une question, il y avait les pierres précieuses qui s'allumaient, les lettres des Bnei Israël qui s'allumaient. Mais ça, c'est Ourim Vetoumim. Dans le titre, il y a juste marqué Kodesh Lachem et c'est en or. Et c'est pas de la pyrotechnique. Ça ne se met pas, ça s'allume pas. C'est pas non, ça marche pas comme ça.
On avait inventé l'électricité déjà à l'époque.
Pourquoi?
Parce que ça s'allumait.
Non, Rolios. À quoi ça sert? On nous dit Vaya al Metzach Aaron Menasa Aaron et Avon Hakodashim. אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. מה זה והיה על מצחו תמיד? מה באמת? Qu'est-ce que ça veut dire que le Kohen Gadol, il a son titre tamid על מצחו, sur son front תמיד? Bah, et quand il va dormir? Et quand il va à l'extérieur du Beit HaMikdash, où il n'a pas le droit d'être avec ses habits de Kohen Gadol. Donc comment ça se fait qu'il y a marqué ici « Vaya al-Mitzro Tamid » Eh bien les amis, c'est ce que nous découvrirons. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est Hanouka, et pas la semaine d'après, vous avez encore Hanouka, donc la semaine d'après.
Chazak Bobo. Donc on s'est arrêté au début du Révi.
Ouais, si tu lis, j'ai pas fait attention.